On est la fin du mois de juillet et on pourrait appeler le mois de juillet le mois de l'indépendance. Alors, pourquoi ça? Alors déjà, le 4 juillet, c'est quoi? Voilà, Fête nationale des États-Unis qui s'appelle Independence Day, la fête de l'indépendance. C'est on fête le fait d'avoir chassé ces vilains Anglais de notre pays. OK? Et 10 jours plus tard, donc la fête nationale française, le début de la République, et on pourrait dire l'indépendance de la monarchie. Et d'ailleurs, entre ces deux fêtes, c'est sympa, d'habitude, on est dans l'un ou l'autre des pays, feux d'artifice et compagnie. Et chose intéressante pour cette question d'indépendance, au niveau personnel, c'est une question de maturité. Il est bon et sain pour nos enfants, une fois adultes, de devenir indépendants de nous, parents. Et c'est même un sujet qu'on aborde dans nos séminaires pour couples. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Genèse 2. Certaines personnes, d'ailleurs, toutefois adultes, peuvent ne pas être tout à fait indépendantes de leurs parents et ça pose problème. On parle aussi de combien c'est une bonne chose qu'une personne handicapée, aveugle par exemple, puisse vivre indépendamment et non pas dans la dépendance. Donc il y a plein de contextes où l'indépendance est une très bonne chose. Mais quand on parle de la foi chrétienne, on parle d'être dépendant de Dieu. Alors, c'est pas un peu contradictoire tout ça? Comment se fait-il que d'un côté, ce soit bon d'être indépendant et que de l'autre côté, il faudrait être dépendant? Regardons cette question justement un petit peu. La dépendance de Dieu, regardons d'abord ce que la dépendance de Dieu n'est pas. Okay, regardons ça. Dépendre de Dieu n'est pas être là les bras ballants à ne rien faire en attendant que Dieu fasse tout, que Dieu nous fasse tout tomber sur la tête. Quand j'étais étudiant, dans mon groupe de chrétiens, on m'a raconté l'histoire d'une chrétienne qui estimait qu'il fallait la direction de Dieu pour chaque petit détail dans sa vie. Elle attendait de se sentir menée, dirigée pour se lever le matin. Il lui arrivait de se sentir dirigé à mettre seulement une chaussette et non deux, certains jours. Évidemment, nous voulons suivre la direction de Dieu. Ça, c'est quand même clair, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré de se creuser la tête si Dieu me dirige à me lever ce matin. Quand même. Je pense que c'est quand même un petit peu de la spiritualisation. Et une telle spiritualisation peut aussi prendre d'autres formes. Ça peut être un petit peu le contraire, prendre des risques déraisonnables. Par exemple, de se dire, au lieu de prendre le pont pour traverser la rivière, on va marcher sur l'eau. Après tout, Jésus l'a fait, Pierre l'a fait. Hein? Pourquoi pas nous? Non, quand même. L'une des qualités de la dépendance de Dieu, c'est quand même d'user de la sagesse. Une autre chose que la dépendance de Dieu n'est pas, on voit dans Galates 6, 5, chacun portera sa propre responsabilité. Et je trouve que c'est très parlant. Nous avons tous des responsabilités devant Dieu. Et être dépendant de Dieu ne veut pas dire s'attendre à ce que d'autres assument des responsabilités qui sont les nôtres. Alors, chose intéressante, ce mot responsabilité dans Galates 5, 6, qui est aussi parfois traduit charge, que chacun porte sa propre charge, C'est le même mot qui est utilisé pour le sac à dos d'un soldat, ce qui est une charge raisonnable qu'en temps normal, chacun doit être capable d'assumer soi-même. Et je pense que Dieu veut qu'on soit adulte, qu'on soit des adultes responsables. Bon, ne tombons pas dans l'excès inverse, c'est-à-dire que de penser que dépendre de Dieu, c'est que pour les grandes occasions, maladies graves, persécution de l'Église persécutée, des choses comme ça. Bon, quand même, certains disent que quand tout va bien, on est capable un peu d'oublier Dieu. Et ça, c'est pas bon non plus. Dans Deutéronome 6, Moïse avertit Israël contre ça, justement. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays qu'il a promis par serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob de te donner, tu y trouveras de grandes et belles cités que tu n'as pas bâties, des maisons remplies de toutes sortes de biens que tu n'as pas amassés, des citernes taillées dans le roc que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras et que tu seras rassasié, garde-toi bien d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. C'est quoi donc la dépendance de Dieu? Je pense qu'il y a lieu de comprendre dans cette histoire qui est Dieu et qui nous sommes. Bon, Dieu est Dieu. Le Dieu de l'univers, créateur de tout, souverain sur tout. Dieu et Dieu est aussi la source de tout. Tout ce que nous avons, Dieu en est la source. Matthieu 6, 24-27, « Nul ne peut mettre en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? Dieu promet de s'occuper de nous. Il dit que nous n'avons pas à nous inquiéter des choses pratiques de la vie. On chante bien ce chant, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et... » Voilà, toutes choses nous seront données en plus. OK. Alors, quand même, chose intéressante, on ne dit pas de ne pas du tout nous occuper des choses matérielles. On dit de chercher d'abord le royaume de Dieu et le reste viendra. Et Dieu rend très clair qu'il veut que son peuple place sa confiance en lui et non pas dans les choses matérielles. Nombre 18, 20. L'Éternel dit à Aaron, « Tu ne posséderas pas de patrimoine foncier dans leur pays et il ne te reviendra aucune part au milieu d'eux parce que c'est moi qui suis ta part et ton patrimoine au milieu des Israélites. » À cette époque, le moyen de subsistance, c'était l'agriculture. Cultiver des troupeaux, etc. Et en général, les terres qu'on cultivait, on héritait de ses parents. Donc c'était son patrimoine, c'était son moyen d'existence, de subsistance, son gagne-pain. Donc quand Dieu dit « c'est moi qui suis ton patrimoine », ça veut dire, Dieu est en train de dire « c'est moi ». La source de revenus, ça vient de moi. C'est ça qu'il veut dire. Alors, dans tout ça, nous, C'est justement une illusion que de croire qu'on gagne tout par la sueur de notre front ou par notre grande intelligence. Deutéronome 8, 17, 18. Prends donc garde de ne pas te dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses. » Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Ce passage en dit long sur Dieu et nous. Tout nous vient de Dieu et tout ce que nous faisons, c'est le recevoir. Si j'ai réussi un super diplôme et que j'ai un travail très évolué, ce n'est pas par ma propre force ou mon intelligence, c'est parce que Dieu a donné tout ça. Si j'ai un travail stable, c'est grâce à Dieu et à son désir de s'occuper de nous. Pour moi, l'un des meilleurs passages pour nous donner des instructions sur la dépendance de Dieu, c'est Proverbe 3 et les versets 5 à 7. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends et te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. On va décortiquer un petit peu ce passage. Première partie. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Pour moi, le point de départ de la dépendance de Dieu, c'est placer notre confiance en lui. Et placer notre confiance en lui, c'est indispensable pour dépendre de Dieu. Alors, Dieu étant Dieu tout-puissant, il est évidemment entièrement digne de notre confiance. Dieu sait bien mieux que la personne la plus intelligente du monde entier. Souvent, si une fille nous tombe dessus, si on a un problème, on pose la question « Pourquoi ?»« Pourquoi j'ai perdu mon travail ?» Pourquoi je suis tombé malade, etc. L'auteur chrétien Packer, dans son livre Connaître Dieu, dit que souvent, on a la fausse idée qui est de vouloir comprendre le pourquoi. Et ça, ce serait la sagesse. Il dit qu'on s'imagine qu'il faudrait comme être l'aiguilleur dans une grande gare, dans sa cabine tout en hauteur, qui voit tout. Parce que lui, il voit pourquoi un train reste à quai 10 minutes, pourquoi un autre part sur une voie de garage. Mais ce n'est absolument pas réaliste. Nous ne trouvons jamais le pourquoi de tout. D'ailleurs, il faudrait Dieu pour comprendre le pourquoi de tout. Packer dit que la sagesse, et aussi, je pense, la dépendance de Dieu, ressemble beaucoup plus à conduire une voiture. Sur la route, quelqu'un déboule juste devant moi, je ne me pose pas la question pourquoi il fait ça. Je m'applique à freiner, à changer de voie, à éviter l'accident. Dans une situation difficile, pourquoi? C'est la mauvaise question en fait. La bonne question à poser, c'est « Ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Dieu, que veux-tu de moi ?» C'est ça, la vraie question. Bon, deuxièmement, nous mettons notre confiance en Dieu de tout notre cœur. Ne prenons pas le mot « tout » à la légère. Dieu est Dieu, il sait tout, il peut tout. Quoi ? On va lui faire confiance à 50%. Allez, je me sens fort aujourd'hui, 75%. Non. Ça reviendrait d'ailleurs à nous reposer sur notre propre intelligence que de partiellement faire confiance à Dieu. Alors, quand même, il n'est pas dit de renier notre intelligence ou de faire systématiquement le contraire de ce que dicterait notre intelligence. On nous dit de ne pas s'y reposer, ou selon une autre version, ne pas nous appuyer dessus. Nuance, hein? Ça veut dire que globalement, on va se méfier de nos tendances naturelles, de nos premières idées dans telle ou telle situation. On ne compte pas sur la solution qu'on a trouvée comme le dernier mot de l'affaire. On se rappelle qu'on est grandement capable de se tromper. Mais, quand même, on ne se trompe pas absolument à chaque fois. Donc, quand même, un peu d'équilibre. Deuxième partie de ces versets. « Tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Un autre facteur pour dépendre de Dieu, on tient compte de lui dans tous nos projets. Concernant une décision que je dois prendre, déjà je vais le consulter par la prière, mais aussi je vais toujours chercher quels principes de la parole de Dieu vont s'appliquer. Parce que le Nouveau Testament ne va pas me dire si je dois changer de travail. Hésitation, chapitre 53 et verset 225, Richard change de travail. Non. C'est pour ça que je dis principe. Par exemple, si je projette de changer de travail, je me pose la question, par exemple, est-ce que les horaires du nouveau travail vont être mieux ou moins bien pour ma famille? C'est une des grandes motivations qui t'a motivé d'ailleurs d'entreprendre. Je pense, si j'ai bien compris. OK. Et il nous conduira sur le droit chemin. Si on veut sincèrement trouver ce que Dieu veut de nous dans telle ou telle situation, il va faire en sorte qu'on trouve. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de « est-ce que je vais trouver ?» etc. Si je veux vraiment savoir ce que Dieu veut, Dieu va se débrouiller pour que je trouve, d'une manière ou d'une autre. Ne te prends pas pour un sage. Ça, j'en ai un peu déjà parlé. Je reste humble par rapport à ma capacité de bien analyser une situation, à trouver la bonne solution. Je ne me prends pas pour génial. Je me méfie de mes astuces. Dernière instruction de l'auteur du proverbe, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors, craindre l'Éternel, ça ne veut pas dire avoir peur de Dieu comme de quelqu'un qui va nous faire du mal. Il s'agit plutôt d'un bon et saint respect. Je prends Dieu pour Dieu, hein? Je ne l'aborde pas n'importe comment et je ne prends pas à la légère ce qu'il dit dans sa parole. Bon, parlons un peu pratique. Qu'est-ce qu'on fait pour vivre tout ça? Alors, je n'ai pas une formule toute faite pour la mise en application du principe de la dépendance de Dieu parce qu'en très grande partie, il est question d'une attitude, voire d'un style de vie. Qu'on développe au fil des années. Bon, est-ce que ça veut dire que je reste à ne rien faire en attendant d'imbiber cette attitude un peu par osmose? Non, quand même pas. Il y a des choses qu'on peut faire. Alors, vous allez me dire que je ne parle que de ça, mais pour moi, la chose principale, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Je vous rappelle l'essentiel, Éphésiens 5, 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela ne peut vous amener qu'à vivre dans le désordre, mais soyez remplis de l'Esprit Saint. » Alors, il s'agit d'être soumis sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, vous vous souvenez les fois où j'en ai parlé, il s'agit que Dieu soit non seulement résident dans ma vie, mais qu'il soit aussi, quelqu'un se souvient, président. Non seulement résident, mais aussi président dans ma vie. Il s'agit de s'attendre à Dieu, de puiser notre force en lui. Être rempli du Saint-Esprit, c'est un peu la base, le fondement de la dépendance de Dieu. Et tu l'as dit tout à l'heure, Axon, qui dit dépendance de Dieu, dit lecture, méditation, étude de sa parole. Vivre rempli du Saint-Esprit et étudier régulièrement la parole de Dieu nous pousseront à changer nos attitudes, à aligner nos attitudes à celles de Dieu. Et l'apôtre Paul parle de ça dans Romains 12. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ça, c'est intéressant. Le renouvellement de l'intelligence permet de discerner la volonté de Dieu. Plus nous passons de temps avec Dieu et dans sa parole, plus notre intelligence sera renouvelée. Mais attention, ça ne sera pas toujours facile ou agréable. Un peu plus loin, dans Proverbe 3, au verset 11 et 12, on lit « Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas, car c'est parce que celui qu'il aime, c'est lui que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. » Il se peut que Dieu nous permette de passer par certaines difficultés afin que nous apprenions. Alors, je ne vois pas ça comme la punition de Dieu pour nos péchés, plutôt des épreuves qui vont nous aider à développer les bonnes attitudes et le bon mode de vie. Bon, ok, on a vu que l'indépendance fait partie de la définition de l'adulte. Hein, être adulte, c'est être dans la vie courante, il y a de nombreux contextes où il est bon, même indispensable, d'être indépendant. Notre relation avec Dieu et notre vie chrétienne, c'est différent. Il est vraiment indispensable pour nous de développer de plus en plus la dépendance de Dieu. Prions. Seigneur, aide-nous à vivre, à nous appuyer sur toi et non pas sur nous-mêmes ou notre intelligence, et à toujours dépendre de toi. Amen.